Chapitre 5. Deux semaines plus tard. École privée Lamar. 18h37. Vous êtes les tuteurs légaux d'Iliane, c'est ça? Amir et moi avons été convoqués à l'école d'Iliane, car il s'est bagarré en classe. On nous a téléphoné sur nos numéros respectifs quand nous étions à la villa. Amir voulait y aller seul, mais je me suis imposée. Il a pris sa voiture et j'ai pris la mienne, puisqu'il refuse de m'adresser la parole et même de me regarder. Si j'étais morte, ce serait pareil. Iliane aurait pu se tenir bien, nous avons assez de choses à gérer en ce moment. Amir et Aymen sont en deuil, même si Amir essaie de ne rien laisser paraître. Il était froid et distant les premiers jours. Depuis une semaine, il a opté pour le masque de l'arrogance et du cynisme. Il fait comme si la mort de Dilara n'avait aucune importance. À son enterrement, il n'a pas versé une seule larme alors qu'Aymen était inconsolable. Amir était si glacial que c'en était terrifiant. Il fixait juste le cercueil avec une expression neutre. Il m'ignore depuis cette fameuse soirée. Nous faisons désormais chambre à part et il ne m'a pas adressé un seul mot depuis notre confrontation le soir de la mort de Dilara. Il ne veut plus entendre parler de moi et même quand il m'entend discuter avec un autre homme de la villa, il quitte la pièce. Il m'inquiète. Une personne normale qui refuse d'accepter la vérité peut faire une crise de nerfs à tout moment. En plus, Amir est instable et surtout impulsif. Quand la tristesse va fondre sur lui et qu'il ne sera plus dans le déni de la mort de Dilara, ses émotions vont revenir et lui exploser dessus. Je crains la manière dont il risque d'agir, non seulement pour lui, mais aussi pour son entourage.
« En effet, » confirme Amir à la professeure d'un ton indifférent.
J'observe cette jeune femme. Les cheveux blonds coupés au carré, les yeux marron clair plutôt ronds, les traits de son visage parfaitement symétriques et fins. Mon regard longe son corps. Elle possède de longues jambes et porte une jupe arrivant au-dessus des genoux, bien moulante, qui montre son fessier galbé. Elle arbore aussi une chemise rose dont les boutons ouverts laissent entrevoir son soutien-gorge rouge en dentelle. Elle adresse des sourires béats à Amir, qui reste impassible. « Pourquoi vous nous avez fait venir ?» je demande. Elle me dévisage et semble déçue que je sois présente. Je n'ai pas le temps de me battre avec une femme, encore moins pour Amir, alors j'ignore complètement son regard méprisant. Iliane s'est battue avec un autre garçon. Il lui a cassé le nez et a failli lui briser plusieurs côtes. Nous sommes contraints de l'exclure pendant 3 jours. Son attitude est inacceptable, m'explique-t-elle sur un ton supérieur. Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Amir hausse les épaules.
Ce genre d'incident arrive. Il devait juste s'agir d'une petite altercation qui a dérapé.
Tente de temporiser Amir.
Mais ça ne se reproduira pas. Iliane est un garçon intelligent. Il sait que c'était une erreur.
C'est ironique venant de lui. Il est le premier à cogner tout ce qui bouge quand il est énervé. Et puis il dit ça. Mais je suis certaine qu'en quittant cette salle de classe, il va s'empresser de féliciter Iliane pour son action. Cette femme se met à rougir au son de sa voix et lui sourit pendant qu'Amir reste froid et distant. Il s'efforce au moins de ne pas draguer une autre devant moi. Il serait mal vu de faire une scène ici, même si elle est ouvertement en train de l'allumer, alors je vais m'abstenir, même si je meurs d'envie de me défouler. Pourquoi ils se sont battus ? Je poursuis. Elle me fixe l'air moqueur. À cause de vous. Je m'en étonne. Comment ça, à cause de moi ? Je ne comprends pas le rapport avec moi. Le jeune garçon avec lequel Iliane s'est battu est âgé de 16 ans. Il vous a vu accompagner Iliane ce matin. Il a demandé à Iliane comment il pouvait avoir une mère aussi jeune que vous et que c'était étrange qu'il ne vous ressemble pas. Iliane lui a dit de s'occuper de ses affaires et qu'il n'avait pas à se justifier. Mais l'autre garçon n'a pas apprécié et ça a très vite dérapé. Je la détaille choquée. Elle prend un malin plaisir à me révéler que je suis la cause de cette bagarre alors que c'est juste ce gamin qui est stupide. Comment se fait-il qu'un adolescent de 16 ans ait pu parler à Iliane qui n'a que 11 ans? Il n'y a pas de séparation selon les âges? Et puis j'espère que ce gamin a eu une sanction plus importante que celle d'Iliane. Je réplique.
Quel est le nom de ce sale gamin?
Intervient Amir. Sa jambe bouge frénétiquement. Ne me dites pas qu'il est capable d'attraper ce gosse. Je ne sais pas pourquoi je me pose cette question. Évidemment qu'il en est capable. Par souci de confidentialité, je ne peux pas vous le révéler, lui répond la prof. Tout ce qu'elle vient de nous dire,
Ilian aurait pu nous le confier sans aucun souci. Bref, cette histoire est réglée, Ilian ne se bagarrera plus. Je conclus. Je me lève de ma chaise quand elle fait un signe de la main qui m'invite à rester. Je soupire puis me rassois. Si ce n'est pas indiscret, pourrais-je connaître la nature de votre relation ? Nous demande-t-elle. Ilian a besoin d'un environnement sain pour se développer. Je la toise. Elle veut juste savoir si Amir est disponible pour tenter sa chance avec lui. Je n'ai pas envie de répondre à cette question qui n'est pas pertinente, mais je ne veux pas que mon manque de coopération porte préjudice à Ilian. Nous sommes mariés, je réplique fermement. Bientôt divorcés, complète Amir. Un rictus illumine le visage de cette femme. Je sais qu'il ne le dit pas pour lui faire plaisir, mais pour me rappeler qu'il va bientôt mettre un terme à notre union. Je m'empresse de la calmer. La procédure n'est pas encore entamée, je précise. Mais c'est pour bientôt, renchérit Amir. Elle hoche la tête, puis je me relève et Amir fait de même. Elle attrape son bras et il la repousse vivement. Elle affiche un sourire gêné pendant qu'il la toise. « Dites à Ilian que j'espère le revoir bientôt, » dit-elle. Je feins l'indifférence pour ne pas me ridiculiser devant elle. Elle a vraiment besoin qu'on lui calme ses ardeurs. Je ne comprends pas comment elle peut être aussi à l'aise alors qu'il s'agit d'un homme marié. Elle ne me respecte pas. Mais elle ne se respecte pas non plus. Je quitte la salle en claquant la porte. Amir me suit de près. Nous sommes seuls dans les couloirs. J'avance dans le long couloir, puis j'ouvre la porte qui mène à l'extérieur. J'entends la professeure revenir à la charge pour parler à Amir. J'ignore la scène, même si mon sang est en train de bouillir. Je me dirige vers ma voiture et me rends compte qu'Ilian n'est plus présent sur le siège côté passager. Je le cherche autour de moi et finis par le voir à travers les baies vitrées d'une épicerie. Je me dirige vers celle-ci et y entre. D'un coup, les volets se baissent jusqu'à me plonger complètement dans l'obscurité. Je sors mon téléphone de ma poche et allume le flash. Je pousse un cri d'horreur en voyant le visage d'un homme à quelques centimètres du mien. Il m'attrape par la taille et je le frappe furieusement à la tête. Il hurle de douleur. Je cherche à sortir mon arme pour la pointer sur son front quand j'entends un cri de terreur. En face de moi, un autre homme tient Ilian, une arme pointée sur sa tempe. Ilian me fixe avec un air terrifié qu'il tente vainement de dissimuler. En le voyant dans cette position, je me fige immédiatement. « Baisse tout de suite cette arme, avant que j'explose le gamin !» m'ordonne l'homme. Celui à qui je viens de donner un coup se redresse et m'arrache mon arme, sans que j'essaie de me débattre. Je lève les mains en l'air et ancre mon regard dans celui d'Ilian pour le rassurer. Je ne sais pas ce que ces types nous veulent, mais je ne les laisserai pas faire du mal à cet enfant. « Très bien !» « Nous allons sortir et vous allez monter gentiment dans la voiture. Au moindre faux pas, mon collègue descend le gamin. » nous prévient notre ravisseur. J'acquiesce. Ils nous font sortir de la boutique et celui qui pointait son arme sur la tempe d'Ilian la colle désarmée contre son dos, pour plus de discrétion. Nous arrivons devant une voiture et l'homme derrière moi me force à m'installer à l'arrière, avec Ilian au milieu et l'autre homme à côté d'Ilian. Il pointe son arme sur son ventre. Celui qui semble être le chef monte côté conducteur et démarre la voiture. Je tourne la tête en espérant voir Amir sortir de l'école. Il finit par apparaître dans mon champ de vision et son regard croise le mien, mais il est trop tard, car la voiture a démarré. Amir fulmine, plus sombre que jamais. Il se met à courir vers sa voiture pour nous suivre. J'observe Ilian qui tremble et lui colle un petit bisou sur la joue. Je vais te protéger. Je le rassure. L'homme qui pointe son arme sur Ilian sort de sa poche des menottes qu'il me tend. Je feins l'indifférence. Enfile ça, puis accroche-les au siège avant. On m'a dit que tu étais dangereuse comme femme. M'explique-t-il. Amir est derrière nous. Vous ne pourrez nous emmener nulle part. Il a sûrement téléphoné à tous ses hommes pour qu'ils viennent à notre rescousse. Vous êtes débiles. Laissez-nous partir. Je les avertis. Qui t'a dit qu'on veut vous emmener quelque part ? Demande le conducteur avec un cynisme qui me fait froid dans le dos. Je peine à comprendre. Je me tourne et vois qu'Amir nous suit toujours de très près. Nous continuons de rouler pendant une bonne trentaine de minutes jusqu'à nous retrouver dans des rues qui ne me disent strictement rien. La voiture d'Amir roule sur nos traces. Il ne doit pas vouloir tirer sur les roues du véhicule de peur de causer un accident qui nous blesserait, Ilian et moi. 20h03. Nos deux kidnappeurs se fixent, puis le conducteur se fend d'un grand sourire. Il adresse un petit clin d'œil à son ami qui ouvre soudainement la portière de la voiture et saute alors qu'elle roule à plus de 60 km/h. Le conducteur referme la portière par laquelle son collègue s'est échappé. Il ouvre ensuite la portière de son côté et saute aussi de la voiture. Le véhicule continue d'avancer malgré l'absence de conducteur. Mon regard se pose sur un large cours d'eau, une rivière. Elle se trouve juste en face de nous. Ils veulent qu'on se noie. Il est trop tard pour arrêter la voiture et de toute façon, je suis menottée. Je ne peux pas freiner.
« On va se noyer !»
panique Iliane. « Ça va aller, n'oublie pas que je suis là pour te protéger. » Je tente de le rassurer alors que je ne sais pas comment nous sortir de cette situation. La voiture plonge dans la rivière et un énorme bruit se fait entendre. J'attrape Iliane avec ma main libre et le serre contre moi. La voiture se remplit à une vitesse folle et on risque de bientôt manquer d'oxygène. Iliane a la tête baissée. Il a déjà de l'eau jusqu'au menton et est en train de boire la tasse. Je le rapproche de moi pour le serrer et éviter qu'il panique. Lève la tête, ne la baisse surtout pas. Il s'exécute alors que l'eau continue de s'infiltrer à une vitesse impressionnante. Mes yeux se mouillent et mes cheveux sont trempés également. Amir va te sauver, il ne faut pas avoir peur, il va arriver. Je tente de le rassurer, me rassurant moi-même par la même occasion. L'eau m'arrive au niveau du cou. J'attrape Iliane et le soulève de toutes mes forces pour qu'il ne soit pas immergé, puisqu'il est bien plus petit que moi. La tâche est extrêmement difficile, car je le porte d'une seule main, l'autre étant menottée. Je le maintiens en l'air. Je ressens des crampes aux bras que j'ignore.
« Lâche-moi, tu es en train de t'épuiser, Kara !»
hurlait Iliane. « Je ne te lâcherai pas, jamais.
Ton bras fatigue !»
me dit-il en se retenant de pleurer. Mon bras tiendra jusqu'à ce qu'Amir arrive. Si je te lâche, tu vas te noyer. Je commence à fatiguer sous le poids d'Iliane. J'essaie de dissimuler ma douleur, mais ça devient de plus en plus complexe. J'entends un bruit de plongeon. L'instant suivant, Amir se trouve face à la voiture. Il attrape Iliane et le soulève pour l'aider à sortir du véhicule. Je soupire de soulagement en laissant retomber mon bras, même s'il me fait affreusement mal. Amir veut me sortir de la voiture également, mais je l'arrête d'un coup d'œil furtif. Iliane boit à nouveau la tasse. Il est trop petit pour supporter la hauteur de l'eau. Il suffoque et lutte pour respirer. «
Emmène Iliane en lieu sûr d'abord. Il faut le sortir de l'eau tout de suite !»
j'ordonne.
« Quoi ? Je vais vous prendre tous les deux !»
s'offusque Amir. « Il risque de perdre connaissance s'il reste encore sous l'eau. Je l'ai tenu autant que j'ai pu. » « Mais il manque d'air. Sors-le de là !» je crie. Amir observe Iliane qui tremble. Le garçon se blottit contre Amir et ne semble pas en mesure de parler. Ses lèvres sont bleutées, son teint est anormalement pâle.
« On va tous sortir en même temps. Je ne vais pas te laisser dans cette voiture alors qu'elle se remplit à une vitesse folle !»
s'obstine Amir. « Dépose Iliane sur la terre ferme, puis tu reviendras !» Il essaie de me tirer hors de la voiture, mais... remarque les menottes qui me maintiennent au siège. Il me consulte, abasourdi, tandis que je détourne le regard.
« Tu voulais que j'emporte Iliane parce que tu sais que tu es menottée ?»
Je souhaitais qu'il protège Iliane en premier et tant pis pour moi. Mais il se rend compte que s'il me laisse trop longtemps ici attaché, je risque de me noyer dans la voiture. Peu importe ce qui m'arrivera, tout ce qui compte, c'est qu'Iliane aille bien. Iliane est en train de perdre connaissance. Il est plus important que moi. Je peux tenir encore quelques minutes.
Je ne te laisserai pas couler.
Tu sais très bien que je suis résistante et je ne suis pas pressée de mourir. Je réponds en toussant. Amir hésite, mais Iliane ferme progressivement les yeux.
Je peux vous sauver tous les deux. Je n'ai pas besoin de faire de choix.
Sauve Iliane! L'eau n'est pas encore arrivée au niveau de ma bouche. Je vais attendre que tu reviennes.
Je reviendrai. Je ne vais pas t'abandonner.
Me promet-il. Je lui souris. Je sais, Amir. Il me fixe une dernière fois avant d'emmener Iliane vers la rive. Cette issue me soulage. L'eau arrive à mon visage, je lève la tête le plus haut possible pour éviter d'être trop vite noyée. Il va revenir. Il revient toujours. Lorsqu'Amir réapparaît, je souffle. Il tire pour faire céder les menottes, en vain. « Amir, pars si tu n'y arrives pas. » Il ne me répond pas et s'obstine à tirer. L'eau arrive à mon menton.
Elle est sur le point de recouvrir mes lèvres, alors je lui accorde un sourire. Si ton visage doit être le dernier que je vois avant de m'éteindre, ça me va. Je lui dis tout bas. Il continue de tirer comme un forcené sur les menottes.
Tu ne vas pas mourir, tu n'as pas le droit.
À force d'acharnement, les menottes finissent par céder. Amir m'attrape et me soulève pour me sortir de la voiture inondée. Arrivé sur la rive, je tousse à en crever et recouvre progressivement une respiration normale dans ses bras. Nous retrouvons le corps d'Ilian immobile. Nous nous précipitons vers lui.
« Ilian, lève-toi !»
je crie. Il est pâle et son front est glacial. Je le secoue pour qu'il se réveille, sans succès. Je tente à plusieurs reprises de lui faire ouvrir les yeux, mais il reste inconscient. Son corps est si froid que j'ai l'impression d'être face à un mort-vivant.
« Réveille-toi !»
je hurle de plus en plus fort. Amir m'écarte de lui. Il se met à lui faire un massage cardiaque. Je me ronge les sangs dans l'attente d'un signe de vie, mais il ne réagit pas. Amir appuie sur la cage thoracique du petit pendant de longues minutes qui me paraissent être des heures. J'ai espoir qu'il se relève. Il ne peut pas mourir. Pas comme ça. Mes mains et mes lèvres se mettent à trembler, car rien ne se passe. Ses yeux restent fermés, ses bras et ses jambes inertes, son torse ne veut pas se redresser. D'un coup, Amir cesse ses mouvements sous mon regard baigné de larmes. Ses yeux à lui ont rougi. « Je ne peux pas le croire. »«
C'est trop tard. »
murmure-t-il. « Non. Impossible. Pas Ilian. Tout, mais pas lui. »«
Quoi ? Ce n'est pas trop tard. Continue. Il faut le ranimer. »
j'insiste en reniflant.
« Il est trop tard, Kara. »
m'annonce Amir en levant les yeux au ciel. Je me dirige vers le corps d'Ilian et prends la suite du massage cardiaque, en lui hurlant dessus pour qu'il reprenne connaissance. Je ne vais pas le laisser. Je lui ai dit que j'allais le protéger. Je ne peux pas manquer à ma promesse.
Amir s'approche de moi et plaque ma tête contre son torse mouillé.
Je pousse un cri strident qui traduit toute ma souffrance intérieure.
« Il ne peut pas mourir. C'est un gamin !»
je crie en posant ma main sur mon cœur qui me fait atrocement mal.
« C'est fini, Kara. »
alors que le désespoir s'infiltre en moi, je vois le petit corps se relever et recracher une grande quantité d'eau. Les yeux larmoyants, je le serre fort contre moi. Je n'ai jamais été aussi soulagée de toute ma vie.